Septembre 2011, bienvenue à l'aérospatiale en compagnie de Julie Gagné à l'animation et de Jacques Gignac à la mise en onde. Comme à l'habitude, on a une heure, ma foi, fort chargée, fort rythmée. On aime le rythme à l'aérospatiale, vous allez voir, ça va y aller, comme dirait une personne que j'ai connue jadis, ça va y aller au toast. Aujourd'hui, dans l'émission, on rencontre Anne-Lise Griffon avec les artistes et commissaires qui vont nous présenter l'exposition qui commence à Regard en fin de semaine. Dominique Savoie nous parle de l'exposition Mutation. Je recommence. Mutation, matière, son, instrument de musique innovant qui est présenté à la galerie Materia. On discute avec Annie Roy, cofondatrice de l'ATSA ou Action terroriste socialement acceptable au sujet de l'exposition Change à la galerie des arts visuels de l'Université Laval. On rencontre aussi Raymond Poirier. Bonjour.
Bonjour.
Tu nous fais la revue de presse dans quelques instants.
Et une grosse perte cette semaine pour le milieu des arts visuels international.
Effectivement. Tu nous tends une carotte et on rencontre aussi Simon Roy, qui n'est pas avec nous en studio, mais qui nous a quand même fait une sélection musicale aujourd'hui. Bonjour, Simon.
Salut, Julie.
Ça va bien?
Ben oui, toi?
Ça va très bien, à part le fait que je m'enferme dans mes mots depuis le début de l'émission. Mais bon, c'est les choses qui arrivent quand on communique.
Ah, il n'y a vraiment pas de problème.
De quoi nous parles-tu? Tu nous parles de l'album Number Stations, en fait.
Ben oui, c'est un album qui est publié sur un label qui s'appelle Public Space Lab. C'est un label qui vient de Seattle, qui donne une musique expérimentale, souvent ambiante. Puis ils ont fait une compilation donc qui s'appelle Number Station. C'est à partir d'enregistrements. Je sais pas si tu connais les stations de nombre.
Non, je ne connais pas.
C'est vraiment intriguant. C'est des stations de radio ondes courtes qui seraient reliées peut-être à l'espionnage. Il n'y a pas vraiment de gouvernements qui ont reconnu l'existence officielle de ces stations-là. Ça existe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, peut-être même un peu avant. Donc, c'est des stations ondes courtes. On entend seulement des numéros, des suites de numéros qui sont lus. Ça serait peut-être utilisé pour l'espionnage, pour communiquer de l'information.
Donc, et on peut en entendre encore actuellement, de
oui,
ça?
Oui, même depuis le début des années 90, il y a eu une grosse augmentation de la diffusion. C'est des stations qu'on n'est pas vraiment capable de trouver. Donc, idéalement, pour ça peut être utilisé aussi peut-être dans le milieu de la drogue, donc pour communiquer de l'information. Puis, ben, ce qu'ils ont fait Public Space Lab, ils ont pris ces enregistrements-là. Donc, c'est seulement des suites de numéros, souvent une voix assez vraiment monotone. Ça peut être lu par un enfant. C'est souvent des femmes qui lisent les numéros. Donc, ils ont repris ces enregistrements-là et ils ont construit, ils sont servis de ces enregistrements-là comme canevas, puis ils rajoutent de la musique par-dessus. Musique ambiante, musique électronique, donc toutes sortes de trucs. Une compilation vraiment intéressante. Donc, c'est vraiment intriguant. Les enregistrements originaux sont disponibles aussi. C'est le Connect Project qui a tout ramassé ces enregistrements-là. Puis, je vous invite à aller voir de leur côté. C'est assez intéressant. Donc, nous autres, ben pour on va entendre quatre pièces sur cette compilation-là.
Oui.
La première, c'est par un artiste qui s'appelle le symbole de pourcent.
Mais c'est ça, j'avais hâte que tu le dises, parce que je voyais ça sur ma feuille, je me disais, bon, OK, symbole de pourcent, pourcentage.
Ben, c'est ça, c'est son nom d'artiste, donc, puis le titre de la pièce, ben, c'est pas mieux, c'est seulement des parenthèses, donc...
Oui, c'est ça. En fait, j'ai vu quand j'ai voulu, parce qu'on peut télécharger ça gratuitement sur
oui.
Internet, et quand j'ai téléchargé cet album-là, la pièce, on enlevait les parenthèses et ça s'appelait « Operator Symbol ». Fait que je me suis dit, un petit peu plus facile à dire quand même.
Non, c'est ça. C'est comme pas évident, aussi mystérieux que les enregistrements.
Effectivement.
C'est que ça serait ça pour la première pièce. La deuxième, c'est un artiste du nom de Kaziel. Donc, sa pièce s'appelle Sio Circlia. Puis ensuite, de ça, on va enchaîner avec Martin Bach un peu plus tard en émission avec sa pièce Hub Fuzzcation. Puis la dernière pièce, ça va être Active avec sa pièce Reruns from SAG. Et vous allez voir des pièces vraiment intrigantes.
Merci, Simon Roy. Merci beaucoup.
Ben, merci.
On se revoit la semaine prochaine, puis on s'en met tout de suite en oreille. On écoute des fins de guillemets, des fins de parenthèses. Qu'on présume comme s'appelant pourcentage ou encore signe de pourcentage ou encore percentage de la pièce operator symbol ou encore des fins de parenthèse. D'ailleurs, parlant de parenthèse, hein, la chronique de Raymond Poirier s'en est une forme avec le dossier de presse. Raymond, tu nous as cinq beaux sujets aujourd'hui.
Oui, cinq beaux sujets et je le mentionne tout de suite, si les gens veulent lire en fait les articles auxquels je fais référence, ils sont mis sur le blog à la fin de l'émission. Également, les sélections musicales de Simon Roy aussi se retrouvent sur le blog. Alors, si vous voulez voir les autographes dont on vous parle, ben allez faire un tour à l'aérospatiale.wordpress.com un peu plus tard aujourd'hui. Première nouvelle, je l'ai mentionné, Julie, c'est l'artiste anglais Richard Hamilton qui s'est éteint, on l'a appris le 13 septembre dernier. Alors, j'ai 89 ans, en fait très malade ces dernières années, il continuait quand même de travailler, il y avait plusieurs éléments en préparation des expositions au MoCA de Los Angeles, à la Tate Modern de Londres, au musée Reina Sofía de Madrid en 2013. Reste à voir si, j'imagine, en fait, les expositions risquent bien de rester à l'affiche, mais peut-être de prendre un côté très rétrospectif. Mais aussi. Oui. Richard Hamilton, c'est probablement un nom qui vous dit quelque chose. C'est une des figures emblématiques du pop art, mais version britannique. On lui doit notamment une œuvre qui s'appelle « Just what it is that makes today's home so different, so appealing ». Qu'est-ce qui rend nos intérieurs si différents, si dynamiques? C'est une œuvre de 1956, un collage qui représentait un homme bodybuildé dans un appartement moderne. Et cette œuvre-là est devenue emblématique du mouvement pop britannique quelques années avant sa version américaine. Et également, c'est lui qui a introduit aussi Marcel Duchamp à l'univers britannique avec son œuvre, notamment Le Grand Vert, qu'il avait reconstitué en 1965. Alors voilà, donc Richard Hamilton qui nous a quittés.
Alors, un petit peu un sentiment quand même de tristesse, mais un âge aussi vénérable. On laisse aller sans trop de douleur.
Des petites controverses dans le milieu des arts visuels. Allons-y avec ça, en fait. Aux États-Unis, notamment, il y a eu un imbroglio assez hallucinant autour d'une toile de maître qui avait peut-être été volée sous Vichy, parce qu'il faut dire, ça reste encore très, très actuel, la Deuxième Guerre mondiale, et on continue encore aujourd'hui de trouver des œuvres d'art qui ont été volées sous le règne nazi. À des familles habituellement juives, bien entendu. Et dans le cas qui nous intéresse, en fait, c'est une toile qui s'appelle « Le Christ portant la croix traînée par un voleur » de Girolamo Romano, une œuvre qui avait été prêtée pour une exposition temporaire au Mary Brogan Museum of Art and Science de Tallahassee, en Floride. Et, en fait, après enquête, donc les autorités se sont rendues compte que cette toile-là avait probablement été volée à une famille, il y a de ça... quand même pas mal d'années. Et donc, le musée a décidé de retenir la toile sur le sol américain, le temps de régler un peu les détails autour de ce dossier. La famille en question, la famille Gentili, donc la famille juive qui s'était avalée plusieurs toiles, est en mission aussi pour essayer d'aller récupérer l'héritage familial. Il y a déjà 5 toiles du musée du Louvre qui ont été récupérées. Et donc là, ça serait une nouvelle toile. Elle vaut quand même 2,5 millions de dollars côté assurance. Alors, on comprend peut-être une certaine volonté là-dessus. Et en même temps, c'est du patrimoine familial qui n'a jamais été vendu. Ça ramène aussi la question de propriété, parce qu'il y a un musée à quelque part là-dedans qui l'a acheté, qui l'a racheté. Donc, il y a eu quand même aussi plusieurs transactions financières de fait autour de cette œuvre-là. Alors, c'est intéressant de voir ce côté juridique.
Effectivement, d'autant plus on compatit quand même avec la famille, mais reste que le musée doit redonner ces œuvres-là qui faisaient partie de la collection. Donc,
et qui l'avait acheté. Donc.
Ben oui, c'est ça, c'est vraiment particulier.
Et parallèlement, dans un tout autre ordre, les gens qui se promènent promènent à Montréal habituellement, lorsqu'ils vont dans le coin de l'hôtel LH, peuvent voir des œuvres assez imposantes. En fait, peuvent voir Love de Robert Indiana, peuvent voir Voluptuous Man on Horse de Fernando Botero. J'utilise le passé parce que ce n'est plus le cas. Oh? Le propriétaire, en fait, George Marciano, l'ex-copropriétaire de Gage Jeans, en fait, il a pas payé ses dettes, il y a eu plusieurs problèmes financiers, donc il s'est fait saisir tout ce qu'il possédait, et notamment l'ensemble de ses collections d'œuvres d'art également, donc qui incluait ces deux œuvres-là, qui incluent aussi une multitude de tableaux, dont plusieurs œuvres d'Andy Warhol et de Jackson Pollock. Alors, ce serait intéressant de voir où ça va ressurgir aussi.
Ben ouais, hein?
Donc, il quitte Montréal, les œuvres ont été reprises, donc à qui vont-elles être vendues là, dans cette saisie monstre d'œuvres d'art qui a eu lieu dans le Vieux-Montréal?
Dossier à suivre.
Dossier à suivre. Et puisqu'on est à Montréal, petite mention au passage, le Musée des Beaux-Arts de Montréal a donné le coup d'envoi il y a quelques temps déjà à des travaux d'agrandissement de ces espaces éducatifs. En fait, c'est Michel Lachenelière, qui est fondateur d'une maison d'édition de manuels scolaires, qui a fait un très, très gros don au Musée des Beaux-Arts de Montréal pour favoriser l'accès à l'art à des dizaines de milliers de jeunes. Donc, il a dit, regardez, je fais un don, mais il faut que ce soit utilisé pour permettre à plus de classes de s'y rendre. Alors, on parle d'une augmentation quand même de 50% des espaces consacrés à l'accueil des groupes scolaires là-bas. Donc, ça devrait passer à 60 000 par année plutôt que 45 000. Alors, une belle nouvelle, et c'est important, en fait, d'ouvrir à l'art, justement. Et donc, ça, c'est un bel exemple, une belle initiative, je trouve, là, pour amener plus de jeunes à découvrir ce qui se fait ici et ailleurs.
Effectivement, parce que plus on est jeune, plus on est en mesure d'ouvrir notre esprit à l'art et d'apprécier la chose.
Et parlant d'ouvrir notre esprit, petite mention en terminant, c'est ce week-end que le Musée national des beaux-arts du Québec tient son fameux grand solde annuel, une braderie où le public peut se procurer une foule d'articles, des livres d'art, des éléments de décor, des accessoires mobiliers de bureau, etc., etc. Là, si vous avez envie d'aller voir ce que le musée a à vendre, eh bien, c'est samedi et dimanche de 10h à 17h à l'Auditorium du Musée des Beaux-Arts.
Raymond Poirier, on risque de te voir demain soir aussi. T'animes les Pecha Kucha?
Effectivement, les soirées Pecha Kucha qui sont de retour pour 2011-2012. Et notamment, il y en a une demain soir à compter de 20h30 au Cercle. Et on le mentionne notamment dans l'aérospatial parce que il y a plusieurs artistes et organismes liés aux arts visuels qui vont faire des présentations. Alors, ça risque d'intéresser, je pense, tes auditeurs et auditrices.
Effectivement, quiconque a envie d'être au fait de l'actualité de ce point de vue-là, ben, allez-y. C'est une occasion très plaisante aussi de voir le grand Raymond Poirier qu'on a entendu à l'émission du matin,
qui est à l'aérospatiale. Je ne suis pas si grand.
Mais Raymond, merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. On s'en va en pause audio. On écoute Cassiel avec la pièce Sio Circlia, puis ensuite on discute avec Annie Roy de l'ATSA. On vient d'entendre Cassiel avec la pièce Sio Circlia qui est tirée de la compilation Number Stations. Je vous invite à nous écrire, oui, effectivement, aérospatial.ckrl@gmail.com ou encore s'il y a des extraits que vous voulez entendre, que vous voulez savoir qu'est-ce qui a joué au cours de l'émission, voir les liens dont on parle en cours d'émission. Vous pouvez aussi aller sur le site l'aérospatial.wordpress.com. Toutes les émissions sont disponibles en balado-diffusion. On se tourne maintenant vers la Galerie des arts visuels de l'Université Laval qui accueille une exposition, ma foi, fort attendue. L'exposition de l'action terroriste socialement acceptable, elle s'appelle Change. Pour en parler avec nous, une cofondatrice avec Pierre Allard, Annie Roy. Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va très bien vous-même.
Ça va très bien. C'est un beau mardi d'automne.
Oui, hein?
Tout d'abord, hein, change, le titre de l'exposition, c'est un jeu de mots, là.
Oui. Change l'impératif, hein, change maintenant. C'est le temps de changer si on ne veut pas frapper le mur, comme on dit. Mais change aussi comme le petit change qu'on a dans nos poches, parce que, bien sûr, on invite les gens en galerie, mais c'est un magasin, en fait, donc tout est à vendre. Et puis aussi, peut-être pour dire qu'une partie du changement va se passer, je pense, par l'économique, par ce qu'on choisit ou pas d'acheter, nous, la masse.
Vous parlez d'achat, tout ça, là, vous intéressez vraiment à l'univers de la mise en marché, à l'univers du marketing avec cette exposition-là?
C'est ça. C'est comme, nous, la SOF fait un trademark avec ce mot-là, change, on l'a vraiment comme brandé, fait un logo vraiment comme si on était une marque méga chic, tu vois. Puis quand on rentre dans la galerie, ben il y a un gros change là sur le boulevard Charest avec Vancouver, Paris, Rouyn-Noranda, Saskatoon.
Ben oui, comme les gros chaînes de magasins
dans le monde. Fait que c'est un peu un clin d'œil effectivement à des endroits où on est allé dans le monde faire des projets ou faire change aussi. Fait que on s'amuse dans ce sens-là.
C'est aussi l'occasion pour vous de poser un regard rétrospectif sur votre travail, parce que l'exposition, c'est aussi une rétrospective de l'ATSA.
C'est ça. En fait, l'ATSA, ça existe depuis 1997. Premier geste dans l'espace public. Hein, je pense qu'on est plus connu pour faire des interventions engagées sur de mise en scène qui sont en lien avec une cause qui, parfois ou pas, font partie les gens, mais qui veut vraiment éclairer une cause dans les grands médias et puis qui offre aussi tout plein de solutions pour que les gens sentent qu'ils ont une certaine puissance, un certain pouvoir là, de réaction puis d'action par rapport à la pauvreté, à la pollution, à tout plein de sujets. Et puis, ben après, je pense, près de 12 ans d'action comme ça dans la ville, on a eu envie de reporter un regard sur notre production. Puis évidemment, ben, ces interventions-là étant éphémères dans la rue, le fait de faire des objets plastiques avec à la base toutes nos photos d'archives, mais aussi vraiment des artefacts. Donc, si on pense à la première fois qu'on a mis la banque à bas, qui était ces poêles de cuisine soudées ensemble, faisant office de guichet automatique de Bochot pour les sans-abri, ben, on a conservé les portes des poêles et elles deviennent maintenant support à photographie dans la fenêtre, si tu veux, de la porte de poêle. Donc, c'est vraiment de l'objet qui est à la fois artefact, donc il y a du vrai vécu dans la rue et qui est aussi un regard photographique là sur ce qu'on a fait. Donc ça, c'est un exemple. Et puis, on a plusieurs œuvres comme ça qui font un peu le tour du chapeau d'œuvres plutôt majeures de ce qu'on a fait. Les états d'urgence, attention zone épineuse, parc industriel, les murs du feu, frag, attentat, toute la série attentat. Puis des clins d'œil par rapport à Québec avec le sommet des Amériques où on était. Puis aussi,
mais oui,
avec attentat, on était là à la place Diouville avec notre véhicule explosé.
D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi dans l'exposition, c'est que tout ça, bon, nous permet de poser un regard sur le passé, mais c'est vraiment comme des petites stations aussi, donc des œuvres avec des stations. Puis mm-hmm. Pour les gens qui connaissent pas la TIL, vous avez quand même décidé de mettre des cartels là, qui expliquent vos actions aussi.
Ben oui, tu sais, à un moment donné, c'est sûr que l'œuvre est parlante, mais en même temps, c'est le fun de savoir c'était quoi là, le projet dans la rue à la base, tu sais, même si on en a comme une petite portion par l'œuvre. Donc, il y a à la gauche de chacune là une explication du projet. Donc, on peut se fier là-dessus. Puis, il y a aussi, juste à la droite, quand on entre dans la salle d'expo, une salle de lecture que Lisanne Nadeau a organisée avec les étudiants qui sont super, là, qui nous font visiter l'expo. Là, ben là, il y a plein de dépliants, Donc, évidemment, une monographie, on a fait un livre là-dessus, donc, qui est là, qui peut être consulté. On a un film, on a notre site Internet. Donc, tu sais, il y a aussi beaucoup de viande, là. Je pense qu'on peut passer un bon après-midi, là, sans s'ennuyer, certains, hein.
Ah oui, facilement, il y a vraiment...
Il y a beaucoup de viande, je pense, à cette expo-là. C'est sûr, ça se base sur 12 années, quand même, de production, hein. Fait que c'est sûr que... Il y a du stock.
Puis vous avez aussi, bon, plusieurs produits dérivés. J'imagine que ce paradoxe-là, que l'ADSA se mette en vente, finalement, ça doit être quelque chose de stimulant aussi pour vous.
Oui, c'est tout plein de choses en même temps. Pratico-pratique, il y a un besoin d'avoir de l'argent autonome. Ça, c'est certain que ça nous encourage réellement. On n'a pas de billetterie, nous, hein? On fait de l'art gratuit dans la rue.
Ben oui.
Donc, tu sais, s'il y a des gens qui se disent, ben moi, je vais voir un show, je paye facilement 25$, ou, tu sais, je m'achète, je vais voir un film, tout ça, ben le monde paye souvent pour de la culture. Mais nous, on l'offre la plupart du temps gratuit dans la rue. Puis dans la galerie, on peut quand même faire le tour de la galerie, puis c'est gratuit. Mais admettons, là, que tu aurais envie de nous encourager. Ben on a toutes sortes de beaux petits produits qui, dans le fond, sont une espèce de déclinaison de l'événement qu'il y a eu dans la rue, à l'œuvre d'art, puis aux miniatures. Donc, par exemple, si je prends Bubblegum Cannonballs, qui était une œuvre qu'on a faite à la Biennale internationale de La Havane, eh bien, à ce moment-là, c'était des gros boulets de canon patrimoniaux espagnols qu'on a recouverts de lycra rose pour les transformer en chiclets, en boules de gomme. Et puis, c'était utilisé, vu que c'était un boulet de canon, un peu comme pour dire ben, le rêve américain, cette bulle du rêve américain, et dans le fond, l'arme de destruction massive de la société cubaine va transformer complètement le paysage cubain, l'écologie aussi cubaine. Donc, c'est sûr que je leur souhaite pas de rester dans la disette ad vitam aeternam, là, mais tu sais, de là à faire rentrer des grosses affiches de Coca-Cola sur le Malecon, tu sais, on pourrait peut-être discuter.
Il faudrait avoir un juste milieu.
C'est ça. Fait que nous, on a produit, on a fait ces grosses pyramides-là, mais tu vois, en galerie, là, tu as des miniatures de pyramides avec en landau, là, toutes les saveurs dans lesquelles on peut les avoir. Alors, crise économique, esclavage, mais donc ça, en même temps, ça devient une petite œuvre d'art avec tout sa charge engagée en termes de propos, puis qui est sympathique, puis qui fait que l'œuvre continue de vivre. Parce que si tu as ça chez toi, puis qu'on te demande c'est quoi ça, ben là, tu vas le raconter.
Ben oui, puis ça fait revivre l'événement aussi, là.
Fait un peu comme, tu sais, je sais pas, j'imagine, tu sais pas, ça fait partie de l'histoire. C'est comme un peu notre manière de continuer d'être dans l'histoire orale, tu sais. Ben, donc, ça revient à l'éphémère en bout de ligne. Tu sais, c'était parti de l'éphémère, ça part par l'objet, puis après, ça retourne à l'éphémère parce que là, ben on le raconte, finalement.
Mais il y a quand même l'objet qui reste.
Ouais.
D'ailleurs, je pense que ça a été aussi l'occasion pour vous de revoir ça, de penser à des produits dérivés. Je pense que ça a été aussi l'occasion de peut-être modifier un peu le regard que vous portez sur vos actions. Hein. J'imagine que vous devez penser maintenant à cette idée de durée-là, puis d'assurer la pérennité.
Si on produit quelque chose maintenant, on va peut-être tout de suite penser plus à le décliner. T'sais. Fait que c'est vrai que ça fait comme une pratique qui s'enrichit, tu sais, puis qui va enrichir les nouvelles productions en se disant ah ça, tu sais, ça va, qu'est-ce que ça va avoir comme vie après, artistiquement parlant. Fait que c'est sûr que ça c'est chouette. En même temps, on va pas nécessairement faire de quoi dans la rue dans le but que ce soit tu sais, il y aura toujours moyen de dériver ça, mais c'est sûr que ça peut effectivement faire partie maintenant de notre réflexion plus globale là, de comment on crée, tu sais.
Puis j'imagine aussi, bon, parce que ça reste quand même un gros pas là, pour l'ADSA qui vous le dites, vous êtes habituellement dans la rue et là, vous passez à la galerie. On s'était déjà parlé, vous me disiez en fait que habituellement les médias retiennent beaucoup votre activisme, donc c'est aussi l'occasion, j'imagine, de mettre l'accent sur le côté artistique de votre pratique, la galerie.
Tout à fait, je pense que les gens qui vont y aller vont voir qu'on est des gens minutieux, voire têteux. Tu sais, tout est bien placé, tu sais, il y a un souci esthétique constant, on peut, tu sais, c'est ce que l'on est. Puis un souci du sens, c'est vrai. vraiment de voir. C'est souvent que le t'as l'œuvre puis t'as le produit dérivé en dessous, un peu comme pour voir ce triangle de la déclinaison de l'objet. Je pense que ceux qui s'en étaient pas rendus compte vont voir que qu'on est des, c'est sûr, des gens qui aiment ça, travailler la matière, réfléchir aux lignes, à comment ça se traduit dans l'espace. Et c'est le même travail qu'on fait dans le fond dans la rue, sauf que dans la rue, vu que c'est du vivant, des fois, tu sais, les gens s'en rendent moins compte, mais c'est sûr que, tu sais, moi, je peux pas faire abstraction de, je sais pas, moi, attention, zone épineuse, quand on a enveloppé les arbres d'une bande jaune sur le tronc, ben, elle était toujours à la même hauteur, elle créait une ligne de fuite, c'était réfléchi, tout ça. Fait que c'est sûr que des fois, le propos engagé, le message qu'on passe par l'œuvre, est à l'avant-plan dans les médias, puis on passe moins de temps à parler de ces choix artistiques-là aussi. Mais en même temps, c'est correct, parce que nous, on fait un art qui veut quand même être moteur de changement, puis qui a le goût de mettre en l'avant-plan des débats puis des discussions. Donc, tu sais, chaque espace, chaque tribune, finalement, tu sais, a quand même le discours qui va avec, tu sais.
D'ailleurs, si on veut en apprendre un peu plus sur l'ATSA, sur votre processus de création, il y a projection d'un documentaire jeudi prochain.
Oui. Alors, c'est dans 2 jours, à 4 heures. C'est à l'Université Laval aussi, donc 255 Charest-Est, où on peut rentrer par le 295 aussi, puis rentrer dans, tourner à droite à l'intérieur.
Dans l'édifice de la fabrique, là, bien imposant sur le boulevard Charest.
C'est ça, local 2406. Et puis, Pierre ou moi, ou les deux, on va être là pour jaser après le film avec les gens. Et puis, il y a le cinéma Le Clap qui offre un 2-pour-1 après, là, pour aller voir un film au Clap, qui sont partenaires de diffusion, si je peux dire ça comme ça. Mais je pense que ce qui est le film, il vient de gagner d'ailleurs un prix Gémeaux du meilleur portrait biographique.
D'ailleurs, c'est un film de Magnus Isaacson, et François Bugeaud qui s'appelle L'art en action.
Et Simon Bugeaud, c'est ça. Donc, eux autres, ils nous ont suivis pendant 3 ans. Donc, de 2005 à 2008, 3-4 ans. Puis, surtout en moment de production, puis beaucoup l'état d'urgence. Donc, il y a vraiment... au début, moi, je pensais que ça allait être un film vraiment... par rapport à la démarche à ça, puis c'est devenu vraiment un film plus intime, donc d'où le Gémeaux portrait biographique, parce que c'est plutôt intimiste sur le couple, la famille, comment on vit tout ça, entre l'art, l'activisme, tu sais, tous ces
rôles sociaux-là, d'une certaine manière, ça. La vie privée et publique.
Oui, c'est ça, puis ben c'est ça, alors je pense que c'est un beau film, c'est toujours vraiment là pour moi, mais je veux dire, moi je pense que c'est un film qui pose des belles questions, qui fait vivre plein d'émotions aussi, puis après, à chaque projection qu'on a vécue, ben tu sais, vraiment, on a des belles discussions avec les gens sur plusieurs sujets, tu sais, importants, puis je pense que, en tout cas, on va être bien heureux de vous rencontrer.
Bien, l'invitation est lancée, Annie Roy, merci beaucoup.
Ça fait vraiment plaisir.
Donc, l'ATSA présente Change à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval. On fait une courte pause. Au retour, on discute avec Dominique Savoie autour de l'exposition qui est présentée à Materia.
Tous les jours de la semaine, de 13h30 à 15h30, le Cercle vous présente l'émission Nouveau Cru sur les ondes de CKRL. À ne pas manquer en septembre, Human et Mathématiques le 22, We Are Enfants Terribles le 23, Machine Gun Suzy le 24 et dans le cadre d'Envoler Macadam, The Dead Set le 29 et Marie-M le 30. 228 Saint-Joseph-Est, 418-988-8648, le trait d'union cercle.ca. À CKRL, le jazz occupe une place de choix. Du lundi au vendredi dès midi, écoutez l'émission Midi Jazz. Le jazz dans tous ses états, seulement au 89.1.
Mmh. Du 28 septembre au 1er octobre, le Festival de la chanson francophone Limoilou m'enchante présente 4 soirées uniques avec des artistes d'ici et d'ailleurs. Robert Charlebois, le 28 septembre, Philippe Noirot, Jessica Vignon, Annie Poulain, le 29 septembre, Michel Buller, Bruno Brel, le 30 septembre et Mariem, le 1er octobre, seront au rendez-vous.
Les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour.
À noter que les spectacles du 29 septembre, hommage à Sylvain Lièvre, et celui de Mariem le 1er octobre, sont présentés gratuitement. Tous les spectacles ont lieu à 20h à la salle Sylvain Lièvre du Cégep Limoilou. Du 28 septembre au 1er octobre, la grande chanson, c'est à Limoilou. Billets en vente sur le réseau Billettech.
Moi aussi, j'aurais quelqu'un qui m'aime.
Les mardis soirs, écoutez CKRL. 18h30. Découvrez les musiques et les voix qui ont fait l'âme de l'Amérique. Animé par Gilles Jumel. L'émission de musique folk et ses légendes. Seulement au 89.1. Cultive tes goûts.
Try it now.
Elle est douce et coule bien en bouche. Une explosion d'agrumes qui me monte au cerveau. Elle vient seulement en grand format. Elle me donne des frissons. Avec elle, je deviens chaude.
La nouvelle bière, la CKRL. Une autre façon de déguster votre radio préférée, le 89.1. Cette bière des maîtres brasseurs de la Barberie est seulement disponible à l'accommodation GD, 500 3e avenue.
Mais vous pouvez aussi la déguster au bar Le Sacrilège et au bal du Lézard.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e avenue, 418-529-3829.
Il est 18h précisément, on entame la deuxième et dernière demi-heure de l'aérospatiale. Julie Gagné toujours avec vous, accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde. Je le répète encore, si vous manquez un petit bout d'émission, vous voulez plus de précision, l'aérospatiale a maintenant un site Internet très complet avec la balado-diffusion et tourne en train lentement de mettre les émissions de l'année dernière aussi sur le site, mais chaque émission va être mise maximum le lendemain sur le site. Donc, c'est l'aérospatiale.wordpress.com. Donc, voilà pour la petite plug. Et là, on accueille dans nos studios Dominique Savoie. Bonjour, Dominique.
Salut.
Ça va bien?
Oui, ça va bien.
Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu avec la pause de l'été.
Bon, facile 4 mois.
Facile, oui. On se croise quand même dans la rue, ouais. Mais radiophoniquement quand même. Tu as choisi de nous parler de l'exposition à Matériel. On aborde l'univers des instruments de musique.
Oui, exactement. L'exposition Mutation, matière et son, c'est effectivement une exposition sur les instruments de musique qui est une première en fait pour la galerie Materia et en fait première quand même là, au niveau là, provincial dans le sens où c'est un collectif pan-canadien qui se sont regroupés pour présenter dans le fond certaines de leurs œuvres parce qu'on parle vraiment ici de d'œuvres.
Ben ouais. On est vraiment dans le domaine de la lutherie. Là,
oui, mais la lutherie en fait. Pas uniquement lutherie, mais quand même pour la plupart des artistes, effectivement. Ça regroupe 13 artistes en tout, qui vont venir de différentes régions du Québec, mais aussi du Canada. Aussi des artisans qui sont effectivement spécialistes en lutherie, mais vous allez en avoir aussi qui sont spécialistes dans d'autres domaines des métiers d'art, que ce soit l'ébénisterie ou encore justement le travail du verre. Donc c'est assez varié comme cohorte, on va dire. Ce qui est bien là-dedans, c'est que l'exposition nous propose vraiment 2 points importants, entre autres faire connaître le travail des artisans du pays, mais aussi faire connaître connaître les dernières recherches dans ce domaine-là. Donc, c'est un peu un contexte particulier, justement, là, par rapport à cette exposition-là que Materia nous propose. Il y a 2 ans, Materia avait proposé le même genre, justement, d'exposition, mais cette fois-ci plus dans le domaine de l'ébénisterie.
Ben ouais, c'est ça. Donc, un domaine aussi avec lequel on est plus familier, parce que la musique, on est dans l'univers du son, mais quand même
exactement.
Une facture visuelle. Là,
oui, 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 vraiment important. En fait, moi, ce que je dirais, c'est que c'est chapeau, vraiment, oui. Materia, à Nathalie Resco, la commissaire, pour le choix des artistes. On a une belle sélection d'artistes, pour la plupart qui viennent même de la relève, d'autres qui sont établis depuis plusieurs années déjà, voire décennies, mais une collection là ensemble là, qui se tient tout à fait hyper originale, qui doit avoir, qui a en fait la grande qualité d'animer une certaine curiosité. Moi, j'ai fait le tour, je suis vraiment une néophyte en termes de lutherie, d'instruments de musique. J'ai fait le tour, j'ai été très curieuse par rapport à chacun des artisans, par rapport au design de chacun des instruments, et ça m'a juste donné envie, une fois arrivé chez nous, de fouiller sur le web, savoir qu'est-ce que c'était un udu, qu'est-ce que c'était justement tel type d'instrument ou tel type d'essence de bois aussi, puisqu'on travaille avec des matériaux aussi qui parfois sont inusités. Puis une autre chose intéressante, avant de parler là, vraiment là,
du cœur de l'exposition,
moi, une chose qui m'a vraiment animée beaucoup par rapport à ça, c'est le fait que quand on rentre dans l'exposition, il y a une vidéo.
Ouais.
Je l'avais même pas vue quand je suis rentrée. En fait, c'est la jeune fille qui était au comptoir de matériel qui me l'a fait remarquer. Il y a une vidéo qui joue en boucle continuellement, et donc ça donne aussi un effet sonore dans la pièce. Et c'est que les artisans ont fait jouer leurs instruments lors du vernissage, mais aussi en dehors du contexte de l'exposition. Et donc, on peut avoir une idée du son que émettent chacun de ces instruments-là. Et ça, bien évidemment, pour une exposition d'instruments de musique, c'est primordial.
Ben oui, parce qu'il ne faut pas évacuer la musique.
Exactement, justement. Parce que c'est la chose, je dirais, le bémol de l'exposition, là, c'est de ne pas pouvoir toucher aux instruments de musique. Puis c'est un bémol qui se comprend tout à fait, mais la curiosité est telle qu'on aurait vraiment envie de pouvoir jouer avec ces instruments-là. Et cette vidéo-là qui est également disponible sur le web.
Okay.
Donc, on va sur le site de Materia et on peut l'écouter chez soi pour vraiment avoir une impression peut-être un peu plus nette du son qu'émettent les instruments de musique.
Ça donne un avant-goût aussi. Là, si vous faites ça avant d'aller voir l'exposition, après, ben
c'est ça. Puis en même temps, ben, la vidéo montre aussi des images des instruments, des artisans. De comment manipuler aussi l'instrument, puisque vous allez voir que c'est quand même assez diversifié.
Il y a plusieurs manches là, sur un instrument.
Exactement. Ouais. Ben, je dirais, moi, j'ai comme divisé un peu là, les types d'instruments en 4 parties. Vous avez ceux qui ont des formes un peu plus, disons, traditionnelles, primitives, qui s'inspirent probablement des instruments de musique du monde. Vous avez, entre autres, un artiste qui va faire une conférence le 30 octobre. Dans le contexte justement de cette exposition-là, Nicolas Manville, donc il travaille beaucoup, lui, le bois, mais le verre aussi. Donc, il va nous donner des instruments qui sont très sculpturaux, comme entre autres son didgeridoo en verre, qui, en fait, on l'entend vraiment bien dans la vidéo, là, le son que ça émet, c'est merveilleux. Une autre artiste qui est plus du domaine de la céramique, Lauriane Thibodeau, qui nous crée justement un instrument qui est vraiment d'origine africaine, qui est le oudou, qui est souvent en forme en fait d'une jarre, et ça crée, c'est plus un type justement percussion.
Mais ouais.
Sinon, vous avez des instruments là qui vont être des plus, je dirais là, vraiment intrigants, là,
comme une grosse contrebasse en métal.
Exactement, aussi, hein? la fameuse contrebasse de Bargiquin qui est le duo en fait de l'exposition, qui est en métal, qui est vraiment de l'ordre de la sculpture et qui résonne en fait avec un son là, très électro contemporain. Et sinon, ben, vous avez aussi des instruments, on dirait, un peu plus étranges, comme la fameuse guitare là, Picasso Arctop, avec des cordes qui s'en vont dans tous les sens.
Ah oui, il y a comme une série de 3 cordes.
Exactement.
Vous allez jouer de ça, ça doit être assez complexe.
Et l'instrument, un autre qui m'a beaucoup intrigué, c'est le cluster de Thierry André, qui est vraiment un mélange de 3-4 instruments là, traditionnels, mais qui en crée un tout à fait nouveau et contemporain.
Donc, on est à mi-chemin entre le contemporain et la tradition, entre ici et le monde.
La sculpture, la musique, c'est vraiment là, un beau mix de toutes les différentes, justement, les différents médiums, les différentes disciplines. C'est à voir absolument.
Bien, Dominique Savoie, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
On s'en va en pause audio. On écoute Martin Bakes avec Obfuscation.
Thank you.
D'entendre Martin Beggs ou Backes, je ne suis pas certaine, Obfuscation, qui est une pièce qui est tirée de la compilation Number Stations, une proposition de Simon Roy qui nous en parlait en début d'émission. Et là, vous n'avez pas idée, il y a une foule qui vient d'entrer dans les studios de CKRL parce que, je l'ai mentionné en début d'émission, c'était quand même un gros été pour Regard avec une grosse saison qui débute. Pour nous en parler, Anise Griffon, la directrice, bonjour.
Bonjour, Julie.
Et Anise, t'as amené aussi avec toi Émilie Roy, une des co-commissaires de l'exposition Calibrage sous déviance qui commencera ce vendredi. Ça va bien, Émilie?
Oui, ça va bien, vous?
Ça va très bien. Et aussi, ça prend des artistes pour parler de l'exposition. On a droit à Dardenne, un duo formé de François Martigues et d'Éric Dorion, qu'on connaît bien ici à l'émission. Bonjour.
Bonjour.
Éric Dorion qui mange le micro, carrément. Pour commencer l'entrevue, peut-être, Anise, il y a quand même, ça bougeait là, cet été. Nouvelle image, nouveaux locaux, nouvelle orientation.
C'est ça, 25 ans de Regard cette année. Et puis, pendant le 25 ans, le 25e anniversaire de Regard, on a décidé de bouger aussi à Lévis. Donc, on était sur la côte du Passage et là, on est descendu à la sortie du traversier à Lévis. Donc, il n'y a plus d'excuses de « non, je ne viendrai pas au vernissage, c'est trop loin, regarde, là, on est juste à la sortie du traversier. »
Pas de gens essoufflés qui entrent en galerie.
Plus de gens essoufflés.
Plus de transpiration. Ouais.
Donc, on a décidé de bouger il y a quand même quelques mois de ça. Et puis, le temps que les choses se fassent, on a eu une aide de la ville, une aide de la Société de développement économique de Lévis qui nous a permis, en fait, de bouger dans ces nouveaux locaux qui sont immenses.
Ben oui, là, c'est l'ancienne salle de quai.
Ouais, c'est l'ancienne salle de quai qui est juste en face du Corsaire. Et dans ces nouveaux locaux, on propose 3 ateliers d'artistes à louer à l'année, plus un atelier commun qui va être loué aussi pour donner des formations... louer à des particuliers, en fait, pour que eux donnent des formations ou nous-mêmes donner des cours. Donc, ça, c'est les 3 ateliers qui sont à l'arrière. Et plus, on a un espace aussi, une espèce de petite vitrine pour les membres et pour les artistes qui vont exposer en galerie. Et puis, la galerie est encore plus grande que celle qu'on avait avant.
Donc toutes sortes de nouveaux.
Très, très beau changement. Ouais, c'est vraiment magnifique. Donc, je vous invite à venir voir ça vendredi lors du vernissage de Calibrage sous déviance.
D'ailleurs, dans les dernières années, vous avez changé un peu ou peut-être un peu modifié l'orientation de Regard. Maintenant, vous cherchez à mettre de l'avant la question de l'hybridation.
Oui, c'est ça. Déjà 2 ans qu'on a changé de mandat. J'étais venue en parler d'ailleurs.
Mais ouais.
Il y a un petit moment, les membres avaient fait un plan de redressement de Regard et avaient pensé déjà à changer l'orientation artistique de Regard, qui était plutôt le lien entre art visuel et écriture. Donc là, on a ouvert le mandat à l'hybridation. Puis on veut aussi se enfin, se spécialiser ou en tout cas se diriger vers des pratiques nouvelles et des pratiques qui s'engagent avec différents médiums, différents médias en fait.
Vous avez quand même une grosse exposition là, qui débute vraiment dans cette veine-là aussi.
Oui, c'est ça. En fait, pour les 25 ans de Regard, on a décidé de créer un événement spécial et on a demandé à Émilie Roy et Guillaume Lafleur de faire le commissariat de cet événement. Donc, Émilie Roy, on la connaissait pour Accident, notamment.
Oui, qui était le off de la manif.
Le off de la manif, hein, qui est à la limite pognée plus que la manif.
Ouais, de la famille à la limite. Et puis, Guillaume Lafleur, donc directeur artistique d'Antitube. Ça faisait un petit moment que moi, je voulais faire quelque chose aussi avec Antitube. Donc là, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire avec ces deux commissaires. Et puis, ben, en fait, on leur a donné carte blanche pour faire un événement particulier pour les 25 ans de Regard.
Donc, d'ailleurs, Émilie, vous êtes, toi et Guillaume, vous êtes vraiment intéressés sur la question de l'art, de la morale, comment l'art transgresse la morale aussi.
Oui, exact. En fait, on posait la question de savoir si l'art pouvait tout montrer. On parle d'éthique, on parle de morale et on essaye de, mais pas d'une manière choquante, mais on essaye de poser la question. Donc il y a des, il y a certains artistes qui sont du côté de l'économie, remettent en question l'économie, ils parlent de ça. Il y en a d'autres, c'est un peu plus, disons, psychologique, j'ai envie de dire là, avec notre nos petits problèmes à nous. Fait que c'est ça, il y a à peu près, il y a trois installations, dont une intervention d'Ardenne dans le traversier. Sinon, il y a une installation de François Martigues qui va être en salle, une installation de Martin Judenbogart, qui est un artiste hollandais en salle, puis il va y avoir aussi une installation de Guillaume Lafleur, qui présente un projet vidéo. Assez intéressant, une belle critique.
D'ailleurs, avec nous en studio, on a les hommes d'Ardenne. Vous nous proposez un événement assez particulier. Hein, sur
en fait, on invite les gens, premièrement, à aller au bureau d'immigration du Dardenland, donc qui va être pendant un mois, qui va être dans les locaux de Regard, et puis avec cette installation-là, avec le bureau d'immigration, on retrouve les passeports, les gens vont pouvoir acheter des titres de noblesse, ainsi que pouvoir se
faire
partie du gouvernement, avoir des portefeuilles ministériels pour la modique somme de 20$ pour un an, vont pouvoir acheter leur titre de ministre et ou leur titre de comte, de vicomte.
D'hyperduc, de mégacomte.
De mégacomte, ouais, c'est ça.
J'avais l'impression que ça allait dire mégacomte. Je trouvais ça assez.
Non, pas du tout. C'est très sérieux, notre truc.
D'ailleurs, nous sommes les représentants officiels. Enfin, nous avons eu ce privilège-là pour venir déjà même à la radio d'avoir. Le privilège de représenter le Dardenland.
Donc, on est les gouverneurs perpétuels du Dardenland. Et d'ailleurs, nous avons depuis hier l'organe officiel de communication. Donc, si vous allez sur Facebook et vous tapez Dardenland, vous aurez le loisir de pouvoir être membre de cette communauté Facebook Darden.
D-A-R. Non, D-A-E-R-L-A-N-D.
Voilà, comme dans Michel Dardenne, notre grand mentor et notre grand potentat. Ceci dit, la journée du vernissage, nous aurons l'honneur. Donc, nous aurons l'honneur de pouvoir faire un lancement officiel du bureau de l'immigration, et ce, à partir de 17h40 sur le traversier
du côté de Lévis
jusqu'à Québec et par la suite de Québec à Lévis. Cette déclaration sera faite à partir du bateau, mais on invite les gens à nous accompagner par la suite puisque nous allons avoir notre véhicule officiel qui est un gros pick-up loué. Donc, probablement un Ford de 150 ou un Dodge Ram énorme et sur lequel.
Ce serait bien le Dodge Ram.
Le Dodge Ram, on a parlé. Hein. Mais on a parlé aux autorités en question de notre gouvernement et puis c'est fort possible qu'on ait un Dodge Ram. Et sur la plateforme du Dodge Ram, vous pourrez faire une procession jusqu'à Regard. Et à Regard, il y aura la levée du drapeau officiel du Dardenland.
L'émission de l'hymne.
L'émission de l'hymne du d'Ardenland, ainsi que la transmission sur les ondes FM d'une radio qui sera en totale compétition à CKRL. Cette radio sera disponible au 88,5. Elle sera en marche à partir de 17h40 et on pourra entendre pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
La radio du Dardenland.
Voilà, la radio nationale du Dardenland.
Mais là, on parle de tout ça, mais quand même, vous avez décidé de former une micronation pour ça. Pourquoi vous avez pensé à ça? Qu'est-ce qui vous a amené de ce côté-là? Parce que c'est quand même un projet d'une envergure, puis de critique, mais en même temps d'une absurdité.
Non.
Du tout. Donc, il n'y a rien à voir avec l'absurdité.
Donc, nous, ce n'est pas nous qui avons fondé cette micronation-là.
Ah non, OK.
C'est notre grand potentat. Et également, le but est clairement de se faire de l'argent.
Dit-il en me regardant dans les yeux et en ménageant une pause avec un impact fort.
Voilà.
Tout est achetable. Les titres ministériels sont achetables.
Donc, nous, on se fait pas.
Tout est à vendre.
Tout est à vendre. Puis, de toute façon, écoutez, on ne commencera pas à faire des élections. Hein?
D'ailleurs, peut-être même le soir même, on peut faire des élections, c'est prévu.
Il y a Émilie Roy, à notre présence, qui tient à devenir ministre de la chasse.
Okay.
Donc, il est fort possible qu'il y ait un ministre de la chasse qui va être élu. Et oui, on vous rappelle qu'également, François Martigues et moi-même aurons le privilège de vous faire écouter une performance en direct au vernissage lancement de notre bureau d'immigration. Donc, on vous invite grandement à venir avec beaucoup d'argent dans les poches pour pouvoir acheter vos titres de noblesse ainsi que nos passeports et nos titres ministériels.
Ben, merci beaucoup, Éric Dorion, François Martigues, pour cette présentation du Dardenland. Ce n'est absolument pas une république fantoche où les valeurs sont mises à l'avant.
Une micronation.
Pardon. Émilie Roy, on voit que ça peut aller dans plusieurs directions.
Il y a toutes sortes de directions. Oui, non, c'est ça. Il y a toutes sortes de directions. Il y a des directions très sérieuses. Puis il y a un jeu aussi autour de ça parce que c'est une question qui peut vraiment amener partout. Donc, alors, on peut en rire. Ça peut être ironique, mais ça peut être aussi très, très sérieux. Donc, il va y avoir à peu près de tout à cette exposition-là.
Et le vernissage, comme on le disait, débute sur le traversier aux alentours de 17h40 à Lévis, 18h à Québec. On se rend dans les nouveaux locaux. Annelise, est-ce qu'on inaugure les locaux aussi en même temps?
Oui, c'est un peu ça, en fait, aussi. C'est l'inauguration, en même temps que le vernissage, c'est l'inauguration des locaux.
Et de la nouvelle image? Parce qu'il y a encore
un concours, la nouvelle image. Mais après le concours, on a reçu plein de propositions. Donc, comme c'est quelque chose, une décision assez importante, là, un nouveau logo, une nouvelle image pour le centre, on prend notre temps. Et puis, sans doute que ça va être lancé vraiment, vraiment plus tard. Là, on regarde tout ça.
C'est un dossier à suivre.
Oui, c'est un dossier à suivre, exactement.
Ben, Annelise Griffon, Éric Dorion, François Martigues et Émilie Roy, merci beaucoup.
Merci, Julie.
On s'en va.
Dardenland, de là où le soleil ne se couche jamais.
Voilà, c'est la fête perpétuelle. On va écouter, on fait une courte pause audio. On écoute Active avec Reruns from Saguenay.
Thank you.
Eh bien, il nous reste tout juste une minute avant la fin de l'émission. Avant de terminer, je veux quand même vous parler de quelques événements. Ça bouge pas mal en art. On a parlé notamment de la projection du film L'art en action, un documentaire sur la TIA qui est présenté jeudi à 16h à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval. On a parlé aussi du vernissage à regard vendredi. Également, le 22 septembre à 17h, donc c'est jeudi, vernissage d'une exposition sur Marcel Ferron, donc des œuvres de 1960 à 1990 qui est présentée à la Galerie Michel Guimont. Samedi prochain aussi, c'est la nuit des galeries, donc la Galerie Lacerte sera ouverte de 19h à 23h. Puis, samedi également, en après-midi à 15h, à regard, une table ronde sur le potentiel de l'art de transgresser les lois et la morale. Je suis certaine que la micronation d'Ardenne sera présente. Alors voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Je remercie Jacques et Gignac, nos invités et nos collaborateurs. Puis, je vous laisse entre très bonnes mains avec Gilles Chaumel et l'émission Folk d'Amérique. Bonne semaine à tous.